Europe 1, 8h.
En ce maintenant, il ne trahit pas déjà ses électeurs. Au moins, il ne participe pas à cette magouille qu'il y a pu avoir avant entre la RM et M. Muselier et d'autres personnes qui vont peut-être discuter dans cette semaine-là. Donc bravo.
Le suspense en région PACA, le sortant LR Renaud Muselier et le RN Thierry Mariani sont au coude à coude, mais les pro-Mariani sont déterminés à se battre. Reportage sur place dans un instant. Un premier tour des régionales marqué par l'avantage aux sortants, notamment Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, la socialiste Marie-Guy de Buffet en Bourgogne-Franche-Comté, la droite se maintient en Ile-de-France, en Normandie, dans le Grand Est. Comment expliquer ce retour des anciens partis de l'ancien monde? Décryptage de Mickaël Darmon dans ce journal. Le football avec la grosse semaine des Bleus, où en sont-ils à deux jours du troisième match contre le Portugal? Et c'est l'inquiétude sur l'attaque des tricolores dans un quart d'heure. L'interview politique de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Nous avons besoin d'un peu de recul ce matin, de clés de compréhension. Notre invité est un fin connaisseur de la scène politique française et de l'opinion publique. Jérôme Jaffré, politologue et chercheur associé au CVPOF. Rendez-vous 8h15.
A tout à l'heure Sonia, on écoute Le Monde changer.
Europe 1, écoutez Le Monde changer.
Le journal de 8h, Thierry Dégéral.
Vous informer ce matin, coûte que coûte, et surtout mettre en avant le travail de nos correspondants, de nos envoyés spéciaux qui ont suivi dans vos régions ce premier tour de scrutin. Un scrutin que l'on peut résumer en un seul mot ce matin, le rejet. Deux électeurs sur trois n'ont pas voté hier. 70% d'abstention, un pourcentage historique. Dans ce journal, on va bien sûr faire le tour de vos régions, des résultats. Posons-nous d'abord en PACA. Il y avait d'un côté le sortant LR, Renaud Muselier. De l'autre, son frère ennemi, l'ex-RPR, Thierry Mariani, désormais RN. Ils sont au coude à coude, entre 30 et 35%. Mais les pro-Mariani sont déterminés à se battre, Frédéric Michel.
Un score serré, mais une victoire à portée d'urne pour Djihad, militant de la droite populaire. Le maintien du candidat d'Europe Écologie Les Verts et de la gauche change tout.
En ce maintenant, il ne trahit pas déjà ses électeurs. Au moins, il ne participe pas à cette magouille qu'il y a pu avoir avant entre la RM et M. Muselier et d'autres personnes qui vont peut-être discuter dans cette semaine-là. Donc bravo. Nous, on continue notre combat dès demain matin et rien n'est perdu. Ça nous donne encore un peu plus d'espoir.
Et l'heure est à la mobilisation chez les militants RN.
Tous les jours, porte à porte, tous les jours.
Pour Michel, le Front républicain a vécu.
Oui, il a vécu, c'est fini, c'est derrière. Il faut avancer. Et oui, c'est ça. Il faut changer sa façon de penser, de vivre, de voir l'avenir.
Plus de 60% d'abstention, le candidat RN Thierry Mariani en appelle aux électeurs mécontents.
Si vous n'allez pas voter dimanche, en donnant la victoire au candidat d'Emmanuel Macron, tout continuera comme avant. Si vous vous réveillez, si vous allez voter, alors un vrai changement est possible.
Une victoire en PACA serait historique. Jamais l'extrême droite n'a dirigé une région.
Frédéric Michel, hier soir au Pontet, près d'Avignon, au siège de Thierry Mariani. Il faut ajouter que le troisième homme de ce deuxième tour est Jean-Laurent Félizia. Il est entre 14 et 18%. Il veut se maintenir au second tour, mais le bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts a décidé dans la nuit de lui retirer son soutien pour faire barrage au RN.
On va faire le tour à présent des autres régions et de l'autre grande région qu'on suivait, c'est-à-dire les Hauts-de-France.
Oui, malgré la mobilisation de 5 ministres, dont Éric Dupond-Moretti. La Macronie est ainsi éliminée dès le premier tour. Xavier Bertrand, ancien des Républicains, est en très bonne posture pour conserver la région. Un succès dont il compte se servir pour la présidentielle de l'an prochain. Xavier Bertrand qui est donc loin devant Sébastien Chenu, que vous receviez il y a quelques minutes, Pierre. La droite peut se réjouir de voir sortir en tête Jean Rottner dans le Grand Est, Christelle Morancé dans les Pays de la Loire et Hervé Morin en Normandie. À gauche, les sortants prennent également une option comme Carole Delga en Occitanie ou encore le socialiste Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est la socialiste Marie-Guy de Buffet qui parvient à devancer d'une courte tête le RN Julien Odoul, 26% contre 24%. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Chef du service politique d'Europe 1. Mickaël, hier soir, ces vieux partis qu'on croyait usés sont de retour. C'est le retour de l'ancien monde?
Et c'est le retour au réalisme pour le président de la République hein, qui veut prendre, paraît-il, ces jours-ci le pouls du pays. En fait, il ne suffit pas de prendre un bâton de pèlerin, de faire des heures de bain de foule ou des pages d'entretien pour réussir à sonder les Français. Il est clair qu'Emmanuel Macron a été mal conseillé et n'a pas pris la bonne décision. Nationalisant le scrutin en envoyant 15 ministres pour affaiblir des présidents de droite, bref, en faisant de ce scrutin le lever de rideau de la présidentielle pour 2022, le pari du chef de l'État s'est transformé en piège. Hier, les électeurs ont traduit à leur manière cette stratégie, puisque la seule élection qui compte est celle de l'année prochaine, la présidentielle. Alors pourquoi aller voter aux élections locales, d'autant que les préoccupations principales, la sécurité notamment, ne sont pas de la compétence des régions. Résultat, ceux qui sont allés voter, eh bien l'ont fait pour les présidents sortants, et voilà comment l'action du président de la République a contribué au retour de la droite et de la gauche, un boomerang et un camouflet pour la Macronie.
Mickaël, vous restez avec nous, je reviens vers vous dans un instant. Un zoom à présent sur l'Île-de-France avec une avance très confortable pour la présidente sortante Valérie Pécresse. Sa liste recueille 35% des voix, c'est 21 points de plus que son principal concurrent, le numéro 2 du Rassemblement National, Jordan Bardella. Hier soir, dans son discours, elle était déjà dans le second tour en parlant d'une coalition, d'une gauche radicale qui a perdu sa boussole. Seul républicain, on l'écoute.
Cette liste de deuxième tour est la même qu'au premier. Face à nous, nous trouverons une coalition d'une gauche radicale qui inclut l'extrême gauche de M. Mélenchon. Cette gauche-là a perdu sa boussole républicaine. Elle a voté contre notre charte de la laïcité. Elle a voté contre le bouclier de sécurité. Dimanche prochain, les Franciliens décideront de leur avenir, s'abstenir ou disperser les voix. En votant RN ou même en votant LREM, c'est faire élire cette gauche extrême. C'est un choix de société. Entre vos mains.
Valérie Pécresse au micro Europe 1 de Romain Houg. Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1, vous êtes resté avec nous. Est-ce qu'on peut dire, Mickaël, qu'à un an de la présidentielle, les cartes sont totalement rabattues?
Ce qui est clair, c'est que les deux finalistes de 2017, qui comptent l'un sur l'autre pour se retrouver en 2022, eh bien, ont passé une mauvaise soirée. Emmanuel Macron a dû se résoudre à appeler à voter pour son rival déclaré Xavier Bertrand, afin de faire barrage au RN, alors que le président sortant dans les Hauts-de-France n'a même pas besoin des voix de La République En Marche. Encore un piège qui s'est refermée. Quant à Marine Le Pen, elle était tellement irritée hier par ses scores en retrait qu'elle a enguirlandé ses électeurs en les sommant d'aller voter dimanche prochain. On verra comment ils ont apprécié l'engueulade. Après avoir cru au décollage régional, eh bien voilà Marine Le Pen qui se heurte à un plafond de verre en double vitrage. Conséquence, hier, pour la première fois, l'étau s'est desserré dans le match des deux finalistes, tant de fois annoncé Le Pen-Macron, ce qui rappelle une fois de plus un principe directeur en politique. Dans une élection présidentielle, rien ne se passe comme prévu.
Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1.
8h06, vous êtes bien dans la matinale d'Europe 1. On vous accompagne jusqu'à 9h, vous restez avec nous dans un instant. Les entreprises de l'aéronautique qui embauchent après avoir licencié au début de la crise sanitaire, et puis le foot avec les Bleus en pleine préparation à 2 jours d'affronter le Portugal. Préparation mais aussi interrogation. A tout de suite.
La matinale d'Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal avec Thierry Dagiral, des chiffres du Covid en baisse, la fin du couvre-feu depuis hier soir, comme un sentiment que tout est derrière nous.
Et même Pierre, les entreprises embauchent, en tout cas celles de l'aéronautique, alors qu'elles avaient licencié au début de la crise sanitaire. On le sait, l'aéronautique a particulièrement souffert de la crise, mais ça semble repartir après l'annonce de nombreux plans sociaux il y a quelques mois, Victor Pourchet.
Le secteur a tenu comme il a pu face à la baisse d'activité de 30% et au carnet de commandes moitié moins rempli en 2020. Ce sont les chiffres du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, dont Philippe Dujaric est le directeur des affaires sociales.
On a tout fait et on a bien fait de maintenir au maximum l'emploi puisqu'on a perdu 8000 emplois, ce qui n'est pas rien, mais c'est très très faible au regard de la baisse d'activité. Mais on voit depuis le mois d'avril une légère reprise de recrutement. Vous allez par palier si vous voulez. Ce qui est important, c'est que l'optimisme revient.
Des embauches après des plans de licenciement il y a quelques mois pour certaines entreprises. Chez AAA, un sous-traitant, notamment d'Airbus, 567 départs étaient prévus en octobre 2020. Finalement, seule la moitié ont été actés et l'entreprise recrute aujourd'hui, parfois même d'anciens salariés. Julien Darolt, délégué syndical CFDT du groupe, se dit vigilant.
Nous, notre position là-dessus, elle est claire et c'est très bien que l'entreprise puisse reprendre des salariés, mais il faut qu'elle les reprenne dans les conditions qu'ils avaient auparavant, avant cette crise.
Alors, trop tôt encore pour parler d'une reprise ferme. Les acteurs du secteur prévoient un retour au niveau d'avant-crise pour 2024.
Victor Pourchet du service économie d'Europe 1.
Nous sommes le 21 juin, vous allez sortir votre basse, votre guitare ce soir. Thierry Dagiral, c'est bien sûr la fête de la musique.
Une fête de la musique avec des restrictions, une jauge de 50% à l'intérieur. Il faudra être assis en terrasse, les attroupements sont interdits. Une fête de la musique également à l'Élysée avec un grand concert de Cérone et de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre qui était votre invité à 6h40, Pierre.
C'était très important aujourd'hui de lancer un peu cette fête de la musique dans un endroit qui est effectivement la cour de l'Élysée, qui est le qui est un des hauts lieux de la République, mais un peu comme les journées du patrimoine, ces endroits nous appartiennent aussi. Et donc, le locataire nous a convié à faire du bruit dans sa cour, ce que nous allons faire ce soir.
À quoi ça va ressembler ?
On a installé dans la semaine un écran avec du son et quelque chose qui puisse être digne de la fête de la musique, de ce redémarrage. On a tellement souffert, on a tellement envie et besoin de se retrouver entre nous, d'être.
C'est la liberté retrouvée, c'est la liberté post-Covid, Jean-Michel Jarre.
Oui, et puis en même temps, on est encore pendant quelques jours, on va être assis, mais on a trouvé un système avec des chaises hautes où on sera assis debout. Donc on se lève tel l'Homo sapiens, nous levons progressivement.
Jean-Michel Jarre, donc ce soir pour un grand concert à l'Élysée.
On termine par le foot et les Bleus sont à 2 jours du match contre le Portugal.
Oui, avec une inquiétude sur l'attaque des Bleus, avec 2 buts inscrits en 2 matchs, mais un seul dans le dernier avec Antoine Griezmann. Le trio offensif avec Mbappé et Benzema ne fait pas des étincelles. Karim Benzema n'a toujours pas marqué depuis son retour en bleu. Mais pour l'heure, Cyril de la Morinerie, l'attaquant français ne semble pas s'en soucier et il est soutenu par Didier Deschamps.
Oui, Karim Benzema affiche sa décontraction. L'attaquant, muet depuis son retour en bleu et auteur d'un nouveau raté devant le but face à la Hongrie, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. On le voit allongé sur une table de massage, torse nu, secouant la tête en musique avec cette mention « calme ». Hier, l'attaquant s'est également entraîné comme si de rien n'était. Il a trottiné et a beaucoup échangé avec Kylian Mbappé, mais aussi Antoine Griezmann qui lui a apporté son soutien lors d'une conférence de presse.
Je pense qu'il a envie de marquer pour enfin te lâcher, te libérer. Mais maintenant, il nous aide beaucoup dans la relation offensivement. Dès qu'il va en mettre un, le robinet sera ouvert, donc ça va couler.
Pour le moment, Karim Benzema conserve l'estime de toute l'équipe de France, y compris du président Noël Le Graët, qui le trouve, je cite, « satisfaisant ». C'est de toute façon un homme qui a une bonne vision de jeu, affirme le patron de la fédération. Mais à l'entraînement, son concurrent Olivier Giroud est apparu hier particulièrement affûté. Le meilleur buteur des Bleus en activité se tient en embuscade, prêt à reprendre la place de Karim Benzema si Didier Deschamps lui en donne l'occasion.
Cyril de la Morinerie, et puis cette toute dernière information pour vous Pierre. On savait qu'il courait vite déjà, mais pas seulement. Le mythique sprinter Usain Bolt est papa de jumeaux, deux garçons.
Génial.
Nommés Thunderbolt et Saint-Léo Bolt.
Bah, très bien.
Voilà.
Merci beaucoup mon cher Thierry Deschiral. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h dans cette matinale d'Europe 1.